France Inter, franceinter.com.
Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement avec Sandrine Laurent et Christophe Papon et assisté de Jean-Christophe Pinaza et de Jean-Baptiste Audibert. C'est Anne Wenfeld qui réalise l'émission. Dans cette émission qui tente de ne pas polluer, de réchauffer en rond, une petite humeur, allez, une petite humeur parce que nous avons deux journées à fêter cette semaine. Jeudi, c'était la journée des milliardaires en dollars, donc une espèce assez peu répandue sur Terre, avec 1125 spécimens au dernier recensement, aux États-Unis, en Russie et ailleurs. Alors si je vous dis Warren Buffett, Carlos Slim et Lou, bon, ces noms ne vous disent pas grand-chose, et c'est normal parce que figurez-vous que ces gens-là n'ont pas fait fortune en s'occupant de nature et d'environnement. Sauf que les choses pourraient bientôt changer si l'on en croit l'OCDE qui nous prédit de gros ennuis dès 2030 si nous n'investissons pas au plus vite dans une meilleure gestion des ressources de la planète, ce que vous avez d'ailleurs aussi Nicolas Stern et bien d'autres depuis le Club de Rome. Mais revenons à nos moutons. Le milliardaire en billets verts est un drôle d'oiseau, pas facile à observer car il ne se déplace pas en troupeau, mais en jet privé. Il fréquente plutôt les paradis fiscaux et autres stations reculées des Alpes suisses, comme lors de sa grande migration annuelle à Davos en janvier, sans oublier au retour les boutiques de luxe rue Saint-Honoré. Bon, notez qu'avec leur pouvoir d'achat cumulé de 3 000 milliards d'euros, si vous voyez nos milliardaires circuler dans les rues de Paris, eh bien détrompez-vous, ce n'est pas pour réclamer l'augmentation des retraites. Deuxième journée à fêter. C'est aujourd'hui, c'est bien sûr la journée de la femme, une espèce présente un peu partout sur la planète, avec cette année plus de 3 milliards de candidates au titre d'être humain à part entière. Une ambition a priori légitime. Et pourtant, quand dans beaucoup de pays, les femmes ont 3 heures de trajet aller-retour quotidien pour chercher de l'eau ou du bois, bien sûr il reste très peu de temps pour l'éducation. Et pourtant, rappelez-vous, en France, les femmes ont attendu De Gaulle et la libération pour obtenir le droit de vote et 1965 pour le droit de travailler sans autorisation de leur mari. Et pourtant, parmi les maires des plus de 36 000 communes pour lesquelles nous voterons demain, il y avait en 2001 à peine 10% de femmes. Et pourtant, quand on voit le film Le Cahier de la jeune réalisatrice iranienne Anna Makhmalbaf, on se dit qu'apprendre à lire quand on est une fille de 6 ans en Afghanistan, c'est un parcours du combattant. Et pourtant, en Inde, en Chine et ailleurs, on ne fait toujours pas confiance aux filles pour assurer les vieux jours. Alors, on se retrouve avec des dizaines de millions d'hommes seuls. Et on n'a pas d'autre solution pour inverser la tendance que d'instaurer une allocation familiale spéciale filles. Sans parler de nos riches contrées développées, de leurs graines de poupées Barbie et autres victimes des magazines, mode, glamour, santé, produits de beauté, chirurgie esthétique. Pas vraiment un modèle de diversité avec leur unique prototype de femme occidentale, c'est-à-dire grande, mince, célèbre, bling bling et bien mariée. Et comme disait Coluche, pour les autres, ce sera dur. Bref, disons que pour fêter avec vous la journée de la femme, chers amis auditrices, nous aimerions vous voir plus souvent aux manettes de la planète, telles que vous êtes, car quelque chose nous dit que vous auriez du doigté pour gérer les affaires, pour éviter les conflits, qu'avec vous le bon sens serait mieux partagé, le développement plus soutenable et les générations futures en bonne main. Alors peut-être aussi, bon plan pour la planète, n'épousez pas un milliardaire. Si vous êtes planète dans votre vie, hein, bien, vous ne pouvez pas épouser un milliardaire. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y avait un excellent bouquin qui existe toujours, hein, qui est très, très très bien fait d'Hervé Kem, qui s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Et bien, vous verrez, c'est rarement compatible avec l'intérêt de l'écologie. Alors, on avait envie de prendre une petite bouffée de nature, parce que Jean-Marie Pelt ne sera pas avec nous pendant 2 semaines, et de garder quand même ce côté nature. Il y a un homme que j'aime beaucoup, parce que ça a été mon grand compagnon pendant 10 ans, le matin de jardinage. Cher Michel Lys, comment allez-vous?
Bonjour CO2 mes amours, car je salue toute l'équipe en même temps, bien sûr.
Mais vous avez raison, mettons-le absolument au pluriel, cher Michel. Et alors on s'est dit, parce que à la fois, il y a deux événements. Il y a Les Jardins de chez nous, entre mer et campagne, qui est votre dernier ouvrage qui vient de sortir. Et c'est vrai que c'est tout à fait agréable de le lire. Et puis on a bientôt, on va dire, cette arrivée du printemps. Alors on avait envie, là, aujourd'hui, quelques minutes de ce moment en Saintonge. Qu'est-ce qui se passe en ce pré-printemps en Saintonge, Michel?
Le pré-printemps en Saintonge est un petit peu en avance par rapport à beaucoup d'autres régions, mais pourtant nous avons connu des journées froides, et il faut savoir que la journée du printemps, C'est simplement le passage de la saison froide à la saison chaude. Patientons encore dans nos jardins, mais on peut déjà commencer beaucoup de plantations, installer beaucoup de plantes et commencer quelques petits semis à l'abri, bien entendu.
Lorsque l'on dit qu'il faut donner de l'amour à la terre, qu'est-ce que c'est ?
Ah ben, donner de l'amour à la terre, c'est s'équiper de son loucher ou de sa bêche pour justement brasser la terre, la retourner ou ne pas la retourner selon les écoles de jardinage. Mais manifestement, c'est là où on donne de l'amour à la terre pour lui permettre de revivre à la fin de l'hiver, où elle a été noyée par l'eau, où elle a été gelée par le froid. Et il faut maintenant lui permettre de respirer, et surtout à toute la petite faune, en particulier mes copains les vers de terre,
ah oui,
de mieux vivre et de mieux labourer en même temps que nous.
Et on l'a rappelé encore l'autre jour, mais le rôle indispensable donc du fameux lombric qui fait l'ascenseur entre la profondeur de la terre et donc la surface de la terre, c'est son boulot à lui,
mais
il brasse.
Mais on devrait lui donner une moustache verte à lui aussi.
Mais exactement, ça en ferait effectivement deux, un sur les lombrics et donc la vôtre qui est toujours en pleine forme. Lorsque l'on parle de ce passage, on va dire du doux au chaud, ça veut dire qu'il y a quand même il y a une température qui est entre guillemets à respecter.
Oui, il y a une température du sol, car les jardiniers ne se préoccupent pas assez souvent de la température de la terre. Il faut savoir qu'un sol doit avoir environ 8, 9 degrés, disons 10 degrés de température pour permettre la levée des graines. Car avant, c'est rien, on ne peut pas semer son gazon avant que la terre ait atteint cette température.
Alors, cher Michel, puisque vous êtes en Saint-Onge, et alors, j'ai vu que dans votre ouvrage à propos de Saint-Onge, moi je l'ignorais complètement, mais il y a quand même une superbe préface d'un homme qui s'appelle Jean-Baptiste de la Quintigny, hein, c'est donc lui qui évidemment a préfacé
cet
ouvrage.
C'est un Charentais d'autrefois.
C'est un Charentais. Et donc il est né en 1626 en Charente, ce que
exactement,
je ne savais pas.
Exactement, il est né à Chabanais,
voilà,
en Charente, et c'était le jardinier du roi de France.
Bah bien sûr. Et alors, en Saint-Onge, on va dire, il y a de nombreuses plantes qui se plaisent bien dans votre terroir, mais si on doit en sortir une, comme ça, un peu emblématique...
Eh bien, tenez, je vais vous dire tout simplement ce que je vais planter dans les jours qui viennent.
Oui.
Je vais planter d'abord un arbuste que j'adore. On l'appelle l'arbre aux anémones, ou encore l'arbre de la marquise de Pompadour. C'est le calicanthus, un bel arbuste au feuillage caduc, qui au mois de juillet va se couvrir d'une floraison de fleurs acajou. C'est d'une couleur rare pour les fleurs, mais des fleurs surtout qui vont dégager un merveilleux parfum. Tout d'abord un parfum de fraise et ensuite un parfum de pomme. Mmh. Le feuillage lui-même est aromatique. Voilà un arbuste à installer dans une bonne terre normale de jardin. Et surtout, l'installer au soleil, l'arroser un petit peu dans les premières années, et puis attendre tout simplement qu'il se mette à fleurir au mois de juillet.
Et alors de arroser à la rose, il n'y a qu'un pas. Quand même quelques mots sur cette rose trémière qui est sans
piquant. Ah, que voulez-vous, la rose trémière, c'est le symbole même de la Saint-Onge. La passe rose, comme on dit.
Voilà.
Et justement, la passe rose, non seulement parce qu'elle vient après les roses, mais surtout parce qu'elle dure beaucoup plus longtemps que les roses.
Alors cliquons aussi quand même sur le réchauffement climatique. Et vous êtes quand même dans un coin de grande culture aussi céréalière. Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui ?
Alors il y a des essais qui sont faits en Charente-Maritime et qui sont très intéressants, puisque les cultivateurs, les agriculteurs, au lieu de s'obnubiler sur le maïs et sur le tournesol, qui sont de gros consommateurs d'eau...
Mais c'est tant qu'on n'a pas changé, on va dire la PAC et les subventions, ce
non,
sera
pas du tout.
Comme ça.
Du moment qu'il y a des subventions,
bah, évidemment,
on marche. Mais par contre, il y en a qui essaient de semer du lin, car le lin a des débouchés multiples, non seulement pour faire du tissu, mais également pour faire des parois isothermes, pour garnir beaucoup de choses, car le lin est à multiples usages, de même que le chanvre. Aujourd'hui, on fait un peu de chanvre, et les jardiniers s'en préoccupent, puisque avec la paillette de chanvre, on peut parfaitement pailler les plantes, pour leur éviter d'avoir trop froid ou d'avoir trop soif en été.
Et puis c'est un excellent isolant, on le sait.
Exactement, hein, c'est un isolant.
Voilà, non, mais je veux dire que ça préfigure quand même l'agriculture aussi de demain, parce qu'on va avoir quand même des changements. On a toujours besoin d'une agriculture qui soit forte dans ce pays, là n'est pas le problème.
Non, mais c'est évident, bien sûr.
Mais évidemment, le problème de l'eau, ce que l'on connaît, des intrants, des pesticides. Alors, votre jardin, on va dire, revenons sur notre jardin, on le fait sans Roundup et sans pesticides, hein, Jean-Marie.
Ah, ben bien entendu, puisqu'il vaut mieux avoir utilisé un peu d'huile de coude, et puis éliminer naturellement les mauvaises herbes. Et puis je dis toujours que les mauvaises herbes, ce ne sont pas souvent des mauvaises herbes. Attendez qu'elles fleurissent, qu'elles ne soient pas trop envahissantes, et là vous aurez de bonnes surprises.
Et alors dans votre livre, donc les jardins de chez nous, alors déjà entre mer et campagne, hein, parce que
oui, parce que bien sûr la mer, au bord de mer, les îles en particulier, l'île de Ré et l'île de Léron, sont des îles l'hiver battues par le vent et battues par les embruns, et l'été c'est brûlant et c'est une chaleur caniculaire.
Oui.
Et bien là, et des terrains très secs et drainants, du sable en particulier. Il faut donc savoir choisir les plantes à mettre dans un jardin de bord de mer.
Alors, il y en a une que je ne connaissais pas, c'est le plein bagot rampant. Là, je clique dessus.
Ah, le plein bagot, ça c'est un... Oh, les hommes de la Méditerranée le connaissent bien, puisque c'est une plante qui vient d'Afrique du Sud, qui est totalement acclimatée sur les bords de la Méditerranée. Mais le plumbago rampant, c'est le Ceratostigma, est une très bonne plante que l'on installe dans ces grandes auges en bois ou en pierre, que l'on trouvait autrefois pour faire la lessive, et qui vous permettent d'avoir de très, pendant tout l'été jusqu'à l'automne, de très beaux coussins de fleurs bleues.
Et puis il est très sympathique parce qu'il peut tenir jusqu'à moins 15 degrés. Cela dit, le moins 15 du côté de
Saint. C'est un rustique,
Saint,
comme un Saint-Ongé.
Voilà, bah c'est ça. Et au moins ça tient. Alors, donc, moi je rappelle que ça s'appelle Les Jardins de chez nous, entre mer et campagne. C'est chez Geste Édition. C'est bien un geste pour un jardinier, c'est pas mal.
Édition, le bon geste.
Et puis nous, on sera samedi donc, en direct du Salon du Livre. Et vous y serez, vous aussi, le dimanche.
J'y serai le dimanche.
Vous serez le dimanche.
Pour bien sûr dédicacer mon livre.
Bon, écoutez, je pense qu'un petit reportage bientôt dans C'est de mon amour. Mais sur place, avec vous, bêche à la main.
Hein. Exactement.
Et en rappelant qu'un binage vaut bien deux arrosages, c'est bien
exactement,
cela.
Exactement, tout à fait. Voilà. Je veux simplement, vous avez précisé tout à l'heure que c'était aujourd'hui la journée internationale des femmes.
Oui.
Et je me demande pourquoi on a dédié une fleur particulière à cette journée-là, qui est le fuchsia. Et le fuchsia, évidemment, n'est pas encore fleuri dans nos jardins.
Bon, ben voilà, ben c'est loupé. Eh oui,
mais donc, rendez-vous en Irlande, parce que là-bas, il y a de superbes fuchsias.
Bon, très bien. Alors, offrez des plantes et des fleurs, mais pas forcément qui ont voyagé pendant 10 000 km.
Merci
beaucoup.
Oui, exactement. Et qui ne sont pas passés par le frigo des grands producteurs.
C'est pas plus mal. Merci à vous, cher Michel Lys. On va se lancer dans notre dossier noir des énergies vertes. Vous allez voir.
Oh là là, il y a de la couleur là-dedans.
Ça va chauffer. Ça va encore faire dégager du
CO2. Vous savez que chez nous, les éoliennes sont en grande concurrence avec la production d'électricité normale.
Bien sûr. Oui, oui, oui.
Parce que le bord de mer, il y a du vent, c'est normal.
Eh ben voilà. Donc c'est le tout, c'est de savoir où les implanter, mais surtout de ne pas rayer un trait de plume les éoliennes. On va en parler.
Et là, comme je vous parle au pied d'une éolienne, il y a du vent. Je m'en vais. Au revoir. Au revoir.
Au revoir. Salut Michel.
Salut.
Ouais. Seeking protection. Oh Lord, it's been a long, long way to go. All you need is a bit of reflection. Just might seem like changing direction right now. Don't go around taking up no collection. On our way down, there's nobody left to crown. What if politicians were all good guys? Oh Lord, don't we wish they were? Wouldn't I be so dependent? Gone so long. Make us all feel like dependent sometimes. If we want freedom, we've got to amend it on our way down. There's nobody left to cry. Be it ever so humble, there's no place like home. Home on the range, where the fear and the antidote play. Where seldom is heard an encouraging word, and our leaders do nothing all day. What if they gave an election and nobody came to vote? The system it needs better correction right now. Just might seem like changing direction right now. As it stands, we don't even make the selection. And to get into heaven, we even need a connection on our way down. There's nobody left to crown. Nobody left to crown. Nobody left to crown. dites pas que ça vous a pas fait plaisir. Merci à Karl Vasseur, notre programmateur, donc d'avoir choisi Richie Evans, donc un vieux de la vieille, hein, qui a pas mal bourlingué avec Dylan. Poésie et folk sur France Inter, c'était tout à fait agréable. Nous allons nous ouvrir ce dossier, édité par Science et Vie dans ce numéro de mars au titre quelque peu provocateur, le dossier noir des énergies vertes. Et quand j'ai dit ça, j'ai reçu, je pourrais dire, une avalanche de courriels, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais enfin, il y en a eu quelques-uns. Quoi encore ? Donc, il y a eu déjà le Figaro Magazine qui a assassiné les éoliennes, ce qui était assez vrai, il y a quelques semaines. On sent bien qu'il y a une montée, là aussi, du nucléaire, donc on ne va pas opposer les gens, on va simplement essayer de poser un tout petit peu le décor. Et Yves Siama, d'abord, bonjour à vous, bonjour Yves.
Bonjour Denis Chesson.
Alors, vous êtes à France Bleu Drôme Ardèche, donc chez vous, dans le département de la Drôme. On remercie Pierre-Jean Friguet, donc, qui est le technicien, donc, là-bas chez vous. Et vous êtes donc journaliste à Science et Vie. On avait déjà conversé avec vous, alors à la fois sur les espèces menacées, sur le charbon. Et donc, il y a ce dossier. Alors, j'ai presque dire que c'est quand même un titre un peu marketing. Et qui veut la peau des énergies renouvelables lorsque l'on voit ça? Alors qu'en fait, je crois que l'idée, c'est de sortir peut-être d'un certain angélisme. Vous avez voulu faire le point. Racontez-nous, Yves.
Tout à fait. En fait, c'est un titre un peu provocant, mais qui est une réaction, effectivement, à l'angélisme qu'on rencontre souvent sur les énergies renouvelables, qui sont devenues un produit de communication. On voit des magnifiques photos d'éoliennes, de panneaux solaires intégrés un peu partout pour exprimer la beauté de la nature. Et en fait, nous, ce qu'on ne voudrait pas, c'est qu'il y ait des gens qui pensent que grâce aux renouvelables, on va pouvoir continuer à vivre comme avant. En fait, cette idée-là, elle est dangereuse parce que les renouvelables ne sont pas neutres. Et finalement, le message de ce dossier, ça pourrait être que, un peu comme il n'y a pas de voiture propre, il n'y a pas de kilowattheure propre. Et finalement, le seul kilowattheure propre, c'est celui qu'on n'a pas consommé.
Bien sûr. Donc effectivement, de toute façon, ça passera par la sobriété, par les économies d'énergie. Et le côté « dessine-moi un mouton qui ne consomme pas d'énergie ou bien qui ne balance pas de CO2 », il n'existe pas encore. Bon, ça, c'est une chose. D'un autre côté, vous dites aussi très bien dans l'article que les énergies renouvelables à long terme sont aussi l'avenir de l'humanité.
Voilà. Les énergies renouvelables se distinguent des autres par le fait qu'elles seront toujours là quand les autres auront disparu. Même si on ne peut pas fixer l'échéance, c'est compliqué pour l'uranium, pour les hydrocarbures. Bon, ce qui est certain, c'est qu'avec la consommation actuelle de l'humanité, même si nous parvenons à la réduire, il y a un moment où il n'y aura plus que les renouvelables, il n'y aura plus que le flux solaire, qui est quand même énorme. Hein. Le flux solaire représente actuellement quelque chose comme 8000 fois la consommation de l'humanité. Donc on peut penser qu'à long terme, l'humanité pourra vivre de cela. Mais à court terme, par contre, ce n'est pas du tout le cas. Et le problème, c'est finalement de passer le siècle qui vient sans casse majeure, en espérant qu'ensuite les technologies nous permettront d'accéder à cette manne solaire. Et pour passer ce siècle, et particulièrement pour passer les toutes prochaines décennies, les renouvelables ne suffiront pas pour nous tirer d'affaire.
Oui, c'est-à-dire que vous estimez, parce qu'en fait vous avez pris la calculette et vous avez travaillé quand même avec des gens que l'on connaît qui sont tout à fait respectables, qui est donc l'association Global Chance. Hein. Et donc là, ces gens-là donc, ont travaillé pendant très très longtemps et continuent à le faire sur ces énergies renouvelables et aussi donc les autres. Donc vous dites qu'en gros, d'ici 2030, on aura 30% d'énergie renouvelable et pas forcément plus.
Hein. Non, en fait, c'est bien ce qu'on dit. Et encore, c'est un chiffre très optimiste. On a suivi Global Chance parce que ce sont des gens finalement proches des milieux environnementalistes, mais en même temps qui sont quand même des experts dont certains finalement sont issus du CEA, etc. Et donc on a essayé de sortir de la guéguerre entre nucléaristes et verts qui pourrit un peu le débat énergétique en France. Là, on pense qu'on tenait des experts qui en sont vraiment. Leurs calculs peuvent se résumer à la chose suivante. Si la consommation énergétique de l'humanité continue sur sa pente actuelle.
Alors, actuellement, c'est vrai que cette augmentation vient de l'élévation du niveau de vie, on va dire, dans les pays du Sud, et c'est quand même logique. Je veux dire qu'on ne va pas s'amuser à faire de la morale à 3 sous et qui ne tient pas la route. Demande en énergie qui progresse de 1,8% quand même par an, et l'autre partie.
Mondiale.
Et autre partie de l'équation, c'est qu'il faut que l'on atteigne aussi, enfin, qu'on commence à avoir une décroissance des émissions de gaz à effet de serre dès 2015. On va dire que ce qui pourrait être tenable pour la planète, c'est une augmentation maximale de 2 degrés. Au-delà de ça, on ne sait pas du tout comment ça va pouvoir réagir à notre affaire.
Voilà, pour ne pas réchauffer de plus de 2 degrés, ce qui serait un saut dans l'inconnu, il faut à l'horizon 2030 qu'on ait moins 15% d'émissions par rapport à aujourd'hui. Les émissions et la consommation énergétique, c'est assez proche. Disons qu'il faut qu'on ait moins 15% d'émissions de CO2 par rapport à aujourd'hui. Et la prolongation des tendances fait qu'il faudra 60% en plus d'énergie. Donc il faut faire 60% en plus avec 15% d'émissions en moins. Et ça, c'est une équation qui est en réalité pratiquement insoluble. Parce que les
énergies... Mais en même temps, pardonnez-moi Yves, mais est-ce que l'on reste dans l'hypothèse où on ne change pas nos modes de consommation et de production, et là on sait que l'on va de toute façon dans le mur? C'est-à-dire que vous partez sur ce scénario-là, ou bien quand même on peut envisager à un moment une espèce de raison quand même globale et planétaire, où on va se dire arrêtons un peu les conneries, quoi. Enfin, vous voyez, c'est...
Absolument. Non mais en fait le message c'est ça. Puisque cette équation n'est pas tenable, il faut arrêter de croître de 1,8% par an à l'échelon mondial. Et comme vous l'avez très justement indiqué, si on veut quand même laisser aux pauvres de la planète la possibilité de se développer, ce qui est complètement essentiel, ça veut dire que nous, dans les pays développés, il faut qu'on arrive à réduire notre consommation énergétique, qui pour l'instant augmente aussi. Hein. On se réfugie souvent derrière le fait que la Chine et l'Inde augmentent. Mais même dans les pays de l'OCDE, la consommation d'énergie continue à augmenter. Elle continue à augmenter en France. Et donc, il faut inverser cette tendance-là. Et l'objectif qui est reconnu par le gouvernement français, qui est reconnu maintenant politiquement presque au niveau mondial, c'est de diviser par 4 nos émissions à l'horizon 2050. Et pour exprimer ça en termes plus concrets, ça veut dire baisser nos émissions, chacun en France, de 3% par an pendant les 50 prochaines années. Donc, il faut que nous, on arrive à baisser de cette quantité-là, ce qui nous fera diviser par 4 dans 50 ans, afin que, justement, il reste un peu de place pour les pays du Sud, pour qu'eux puissent accéder à l'énergie.
Et alors, une fois de plus, ça nous fait rentrer dans une société de modération qui n'est pas forcément triste. Voilà, je crois qu'il faut le rappeler. C'est-à-dire qu'il faut être fou économiste, comme on dit, pour penser qu'une croissance infinie est possible dans un monde qui est fini. Donc, de sortir de la société du gâchis. Et il y a déjà ce qu'on appelle une économie positive qui existe. Alors, je veux dire qu'elle va être incarnée par un homme qui est aussi avec nous en studio, qui s'appelle Maximilien Rouer. Maximilien, bonjour à vous.
Bonjour, Denis.
Alors, Maximilien, vous êtes à la fois directeur de B-Citizen, donc évidemment vous travaillez dans le domaine du développement durable, et puis vous avez sorti avec Anne Gouillon cet ouvrage pour lequel je vous avais reçu, qui s'appelle « Réparer la planète, la révolution de l'économie positive » chez Jean-Claude Lattès, en disant « des solutions existent ». Alors c'est vrai qu'il y a un constat, Yves Siama n'est pas, je tiens à le dire, n'est pas quelqu'un qui roule forcément pour, on va dire, le lobby de l'uranium, etc. C'est pas ça du tout son propos.
Ni pour celui du pétrole d'ailleurs.
Ni pour celui du pétrole, non, on se dit bien que le titre un peu marketing, c'est pas forcément vous qui l'avez trouvé, mais enfin chez Science et Vie, ils ont dit ça va faire du foin et d'ailleurs ça marche.
Disons provoquant,
absolument. Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, effectivement, lorsqu'on dit que d'ici 2030, Maximilien Rouer, on aura peut-être que 30% d'énergie verte ou renouvelable dans le circuit? Est-ce que ça vous paraît pessimiste? Enfin, je sais bien qu'on peut tirer un peu des plans sur la comète, mais quand même.
Non, je dirais le plus important, pour reprendre ce que disait Yves il y a 2 minutes, c'est changer le paradigme. Global Chance, OCDE, World Bank, tous les acteurs aujourd'hui qui tirent des scénarios sur l'énergie fonctionnent dans le paradigme de l'économie négative. C'est-à-dire on ne change rien et on pousse la logique d'aujourd'hui, et puis des acteurs, on va dire, mouton blanc ou mouton noir, mais ils sont tous des moutons, vont dire oui, mais en réduisant un peu, même beaucoup, on arrivera peut-être à faire tenir 7, 8 milliards de personnes dans la boîte. Écoutez, moi je pense qu'on n'ira pas contre les logiques de croissance et de développement. Il faut juste réinventer cette croissance, faire en sorte que celle-ci produise plus de ressources qu'elle n'en détruit. Pour faire comprendre l'économie positive à nos auditeurs, je vais partir du bâtiment. Pour ceux qui m'ont déjà entendu, je m'en excuse, mais pour les autres, ça va être un peu instructif.
Vous savez que la pédagogie passe par la répétition, donc vraiment, n'hésitez pas.
Donc le bâtiment, aujourd'hui, on accepte tous, on va dire, de manière plus ou moins passive, d'acheter ou de louer un appartement ou une maison qui consomme de l'énergie, et régulièrement, donc on va payer nos factures plus ou moins facilement. Dans un futur proche, et notamment pour les Chinois, les Indiens, les Sud-Américains, tous ceux qui ont des millions et des millions de logements à construire, ce que je souhaite et ce que j'espère, c'est que les bâtiments seront positifs. Ça veut dire que plutôt que de payer des factures, les illustres habitants de ces futurs logements recevront de la part de leurs concitoyens des gains, recevront de l'argent parce qu'ils produiront en partie de l'électricité qu'ils revendront sur le réseau. Pour être très clair, ça passe exactement par ce que disait Siama tout à l'heure, à savoir la réduction de la consommation, sauf que ça va être complètement passif et inodore et sans douleur pour nos habitants. Les bâtiments auront été bien conçus, bien positionnés par rapport au soleil, très très bien isolés, et de telle sorte qu'on arrivera très facilement à une consommation divisée par 10, voire par 20 par rapport aux bâtiments standards aujourd'hui en Europe de l'Ouest, je ne parle pas des États-Unis. Une fois qu'on a divisé par 10 ou par 20 les consommations du bâtiment, alors ça commence à devenir pertinent de mettre des énergies renouvelables comme solaire, éolien, biocarburant, qui vont permettre la satisfaction des besoins, voire même, comme je disais tout à l'heure, de revendre au réseau. Ce qui va être intéressant, suivez-moi chers auditeurs, c'est l'évolution que l'on suit aujourd'hui au niveau des territoires, qui est exactement celle que nous avons vécue depuis les années 60 avec l'informatique. Peut-être certains d'entre vous se souviennent, dans les années 60, ceux qui commençaient à travailler sur les ordinateurs avaient des terminaux qui communiquaient avec, par fil, avec un lointain cerveau central, un espèce de gros truc quelque part dans le bâtiment. C'était des milliers de terminaux pour un cerveau central. À l'époque, le patron d'IBM disait « le monde tournera avec 5 méga-ordinateurs ». Le monde tournera avec 5 méga-ordinateurs. Et vous savez bien où nous en sommes aujourd'hui. Nous en sommes à plus d'un milliard d'ordinateurs individuels connectés par un réseau incroyable qui s'appelle Internet et qui permet de démultiplier la puissance de calcul et la puissance informative de tous ces réseaux. Et on est donc passé de quelques cerveaux centraux à des milliards de petits cerveaux, certes beaucoup moins puissants que les gros cerveaux centraux qu'on nous promettait, mais dans la pratique infiniment plus efficaces pour tout un chacun.
Ce qui veut dire que, vous êtes en train de nous dire qu'effectivement, en ce qui concerne l'énergie, on va avoir quand même beaucoup d'énergie qui sera décentralisée.
Décentralisée, répartie sur les territoires, ça va être intéressant pour les territoires, ça va être intéressant pour les individus, ça va être intéressant, je pense, pour les démocraties. On va avoir aussi une capacité à beaucoup mieux résister aux variations climatiques qui sont quand même appelées dans un futur proche à être beaucoup plus extrêmes. Qu'est-ce que ça veut dire, si je continue l'allégorie ? On est dans un système aujourd'hui où les bâtiments d'aujourd'hui sont encore les terminaux d'hier. Des bâtiments absolument dépourvus de toute intelligence, des coquilles vides. Alors certes pas avec un écran et un clavier, mais avec des fenêtres et des portes et puis finalement des boutons pour consommer. Quel est le futur vers lequel on s'oriente pour des soucis de coût, pour des soucis de praticité et de résistance aux risques et aux crises? Des bâtiments beaucoup plus intelligents, avec là aussi beaucoup d'informatique, beaucoup de systèmes, on va dire high-tech, beaucoup de systèmes qui vont s'inspirer d'Internet, et aussi beaucoup de ces énergies vertes tant décriées du point de vue marketing dans ce document sur Science et Vie. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est que c'est déjà possible si je m'inspire par exemple de l'expérience qu'a lancée Angela Merkel l'année dernière. Alors, désolé, le terme est allemand, et comme je ne parle pas allemand, je vais l'exprimer en allemand.
Lancez-vous.
Kombikraftwerk, ça veut dire système de gestion.
C'est un outil de gestion de réseau, ça.
Un outil de gestion de réseau. Oui. Angela Merkel a cherché à répondre à ses accusateurs qui lui disaient: Mademoiselle Merkel ou Madame Merkel, vous n'arriverez jamais à subvenir aux besoins de la population en électricité à partir de renouvelables qui est intermittente. Et elle a dit: chiche, et si on inventait des territoires interconnectés qui, grâce à un réseau performant, pouvaient compenser à droite les faiblesses de la gauche, pouvait compenser en haut les faiblesses au sud, les faiblesses du nord. Dit autrement, on va interconnecter des systèmes à biomasse, des systèmes donc à plantes, des systèmes à solaire, des systèmes éoliens, et quand au nord de l'Allemagne il n'y a plus de vent, on compense avec le soleil qui peut être de l'ouest, du sud ou même du nord. Quand à contrario il y a du vent au sud, il n'y en a pas au nord. Enfin, vous comprenez le système, tout repose sur une intelligence des réseaux, c'est-à-dire des réseaux qui ne soient pas comme aujourd'hui, connectés à des méga centrales comme hier, des méga ordinateurs qui vont faire tomber l'énergie juste sur des millions d'habitations, mais cette fois-ci des millions d'habitations interconnectées entre elles, qui vont produire suffisamment d'un tout petit peu d'énergie pour satisfaire les besoins des territoires. Et évidemment, ce n'est pas aussi caricatural que ça. Aujourd'hui, il reste à côté d'Internet les méga ordinateurs, et dans le futur, il restera aussi les méga centrales. Le futur vers lequel on s'oriente sera sans nul doute très très proche des réseaux informatiques aujourd'hui, à savoir des méga centrales et une multitude, sans doute des milliards de mini centrales qui vont équiper les bâtiments, qui vont équiper les moindres centimètres carrés de terre disponibles sur les territoires, qu'on soit en France, au Karabakh, ou au sud de l'Amérique du Sud.
Alors c'est tout à fait intéressant ça, Maximilien Rouer, parce que c'est vrai que si on parle, on va dire, avec vous, Yves Siama, donc des deux stars peut-être qui cachent la forêt, parce que la réalité du monde, c'est qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, je dis bien aujourd'hui, c'est quand même dans l'épaisseur du trait, et en particulier l'éolien et le photovoltaïque, mais en même temps, ça galope quand même beaucoup, beaucoup dans le monde. C'est vrai que vous pointez tout à fait justement qu'il n'y a pas forcément de puissance régulière garantie, et qu'on ne peut pas non plus stocker d'importantes quantités d'électricité. Donc les rendements ne sont pas forcément d'enfer. Mais si on quitte cette notion centralisée et qu'on décentralise ces énergies où nous serons nous-mêmes donc ses propres producteurs, est-ce que ça vous semble effectivement une hypothèse possible, ça, pour l'avenir, Yves ?
Moi, je pense que la vision de Maximilien Rouer est assez juste, et c'est probablement une des seules issues viables vers laquelle se diriger. Le problème, c'est qu'elle me paraît encore très très lointaine. Comme vous le disiez, pour l'instant, le solaire et l'éolien sont dans l'épaisseur du trait, c'est-à-dire en dessous de 1% si on regarde le bilan de la production énergétique mondiale. C'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte.
On rappelle juste que pétrole, charbon et gaz, ça fait 80% quand même aujourd'hui dans le monde. Hein. L'énergie reine de l'humanité, c'est le pétrole, et ça va quand même encore durer pendant pas mal de temps.
Voilà.
Et on rajoute le charbon.
La difficulté, en fait, c'est que nous sortons d'un monde qui est complètement intoxiqué aux hydrocarbures.
Oui.
Et la difficulté, c'est de gérer la transition entre ce monde-là et finalement le monde que décrit Maximilien Rouer, qui me paraît assez alléchant. Et c'est là que finalement il faut bien identifier les bonnes urgences et ne pas forcément se tromper sur les priorités. Je veux dire par là que c'est très important de comprendre que ce sont les économies d'énergie qui sont la manière la moins chère et la plus efficace, la plus immédiate, la plus rapide de réduire nos émissions. Plus, bien sûr, que l'augmentation de la production d'énergie peu émettrice.
Ça, on est tous d'accord. Il faut le répéter et le marteler, ça, bien sûr.
Et ouais. Oui, mais on est tous d'accord parmi les amis de cette antenne, ouais, et de cette émission. Par contre, au niveau plus général, c'est pas évident que ce soit une réalité qui est comprise.
Et si vous voulez, pardonnez-moi, je vais juste reprendre une phrase de Jean-François Bernardini que j'avais reçue. On a fait une émission, je crois, assez formidable. Donc le chanteur d'Imouvrilly qui disait « Être d'accord sur les choses, c'est pas compliqué. Vivre l'accord, là, ça devient effectivement beaucoup plus complexe. » Je vous en prie, Yves.
Non, je voulais raconter une petite anecdote moi que j'ai vécue récemment et qui m'a impressionné. Je me suis retrouvé dans un salon de l'énergie éolienne. Et en fait, c'est ça qu'on appelle des énergies qui sont arrivées à maturité. Ce salon ne se distinguait en rien de n'importe quel salon industriel. C'est-à-dire que vous aviez des cadres supérieurs en costume bleu marine avec des jolies assistantes qui distribuaient des pins et des stylos au logo de leur entreprise.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'effectivement, ces gens-là sont des industriels. Ce n'est pas forcément des écologistes, on est bien d'accord. Ils sont là pour vendre effectivement des systèmes.
C'est plus comme il y a 20 ans, c'est plus comme il y a 25 ans. Et peut-être qu'il faut s'en réjouir. C'est la preuve aussi que les renouvelables sortent de la marginalité. Mais il faut s'en réjouir, mais surtout, ce qui est sûr, c'est qu'il faut le savoir. Et finalement, ces gens-là, ils défendent leurs intérêts comme tout le monde, et leurs intérêts, c'est de nous vendre les énergies renouvelables qu'ils produisent. Et finalement, quel que soit leur coût, quelles que soient les circonstances, etc., ce sont des entrepreneurs. Et donc, il faut maintenant faire un petit peu attention. Oui, il y a un lobby pétrolier qui est un des plus puissants au monde, il y a un lobby nucléaire, mais maintenant il y a aussi un lobby renouvelable, et on le voit avec les biocarburants, on le voit avec l'éolien, on le voit...
Des agrocarburants, ils sont pas bio,
oui,
ils sont
agro. Hein. Des agrocarburants, pardon. Voilà, et donc le consommateur, il reçoit beaucoup de communication de toutes ces entreprises, et il doit s'orienter un peu finement, et il faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce dossier, c'est pour dire que dans certaines circonstances, certaines renouvelables sont parfaitement adaptées et c'est normal de les imposer, mais qu'il y en a d'autres où, quelque part, on a un peu l'impression que c'est jeter l'argent par les
fenêtres. Aujourd'hui, Siama, que l'on comprenne bien, si on clique sur la case énergie renouvelable, le plus important, ça va être la biomasse avec le bois, ensuite ce sera suivi par l'hydroélectricité, et ensuite quoi qu'on aura la géothermie, puis après arrive éolien et solaire, c'est à peu près ça ou...
Oui, c'est ça. Au niveau mondial, 10% de l'énergie est fournie par la biomasse, c'est-à-dire principalement le bois, 2% par l'hydroélectricité Et tout le reste fait 1%. Tout le reste est moins de 1%. Là-dedans, il y a l'éolien, le solaire, bon, tout ce que vous avez dit. Les gros poids lourds, ce sont l'hydroélectricité et la biomasse. Et ce sont des énergies qu'on ne peut pas considérer comme totalement non polluantes.
Ben non. Quand on regarde le barrage des Trois Gorges, par exemple, en Chine, c'est un exemple.
Moi, j'ai parlé récemment avec des militants alternatifs indiens qui me disaient qu'en Inde, il y avait des mouvements populaires très remontés et nombreux contre les expropriations résultant de la construction de barrages. Oui. On chasse les gens des vallées, on les exproprie, c'est très conflictuel. Et si on parle, les drames humains, mais il y a aussi écologiquement beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe quand on noie une vallée.
On entend bien que de toute façon, il n'y a aucune solution qui est parfaite, mais il y a quand même des choses qui se font. On se doute bien aussi que pour le photovoltaïque, on a quand même 1,6 milliard de personnes dans le monde qui n'ont accès à aucun réseau d'électricité. Et donc cette décentralisation-là est l'exemple type de ce qu'il faudrait faire, d'autant que cette population se trouve pas très loin des tropiques, hein, aux tropiques ou pas très loin des tropiques. Donc là, il y a quand même un vrai gisement. Hein, de ce côté-là.
Absolument. Le photovoltaïque, le problème du photovoltaïque, c'est qu'il est très cher.
Et, il est aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui. Bon, il baisse, mais il baisse quand même lentement. Et on nous avait promis des effondrements de prix qui, pour l'instant, n'ont pas eu lieu. Mais il est certain que le photovoltaïque est l'avenir des gens qui sont hors réseau, surtout dans les régions où il y a beaucoup de soleil.
Alors, on va se faire une petite pause. Et puis, moi, ce que je propose, c'est aussi donc, de continuer cette discussion à trois. À trois, pourquoi ? Parce que Pierre Radan va nous rejoindre dans quelques instants. Peut-être Maximilien, un mot tout de suite.
Oui, excusez-moi, j'aimerais quand même rappeler un truc fondamental. On n'est pas en train de parler et de soupeser des tomates au marché. On est en train de parler de notre avenir. Et s'il y en a un, il faut commencer à arrêter de dire des bêtises. L'espèce de consensus mou qui commence à dire, que j'ai entendu sur cette antenne il y a un quart d'heure, si on arrive à limiter le réchauffement climatique à plus de degrés, alors ça tiendra dans la boîte. C'est un arrangement psychologique de la communauté qui s'intéresse au sujet pour espérer que globalement, ils arriveront à sauver leurs fesses personnellement. Aujourd'hui, rien ni personne ne peut dire si on va arriver à s'en sortir avec ne serait-ce que plus 1 degré en température moyenne globale. Et à partir de là, ça veut dire que toutes les énergies, quelles qu'elles soient, doivent être étudiées et soutenues. Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain quand on commence à dire qu'on jette l'argent par les fenêtres aujourd'hui. Le cycle de l'innovation est un cycle qui prend du temps. Et de toute façon, que ce soit pour inventer le téléphone portable ou mobile, peu importe, que ce soit pour inventer la charrue, inventer la roue, à chaque fois, il y a eu des milliers de tests et il y a eu de l'argent qui a été mis par les fenêtres. On est dans une configuration aujourd'hui, que ce soit pour les solaires, les éoliens, les agro-biocarburants, les biomasses, on est en train de tâtonner et on a besoin au contraire de jeter de l'argent par les fenêtres, le moins possible évidemment, mais relativement à l'argent qui aujourd'hui inonde la prospection pétrolière et le monde des hydrocarbures en général, soyez bien conscient que nous ne jetons là encore que l'épaisseur du trait par la fenêtre.
Et c'est ça qu'on jetait par la fenêtre sur les biocarburants.
Non, mais ce qui est intéressant.
Mais oui, on en reparlera. Il faut arrêter. Les agrocarburants d'aujourd'hui ne sont pas les agrocarburants de demain. On n'arrive pas à mettre au point une technologie en quelques années. On apprend, on met des règles et c'est un cycle d'innovation, que ce soit pour les agrocarburants comme pour le solaire, dont l'invention date des années 50 et on n'est toujours pas au point. Et si, dès le début d'une innovation, on commence à jeter des pierres, c'est évident qu'elle n'arrivera jamais à maturité.
Alors on sait
c'est
effectivement évident que la deuxième génération, on va dire, d'agrocarburants, qui là devrait être beaucoup plus intéressante, c'est pas avant 2015, à peu près 2020, et qu'il y a aussi quand même ce fameux petit dicton, c'est-à-dire manger ou conduire, peut-être qu'il va falloir quand même choisir aussi. Là, on avait déjà fait une émission donc dessus, parce que là on peut partir pendant une heure et quart et ça va pas être possible. On se fait une petite pause avec Lavillier et puis on va prendre aussi Pierre Radan en ligne qui nous écoute.
Chic, choc, très tendance et pas cher, durable au moins une heure par semaine, c'est CO de mon amour avec Denis Chessou.
Solitaire, un peu trop fier pour vivre au présent. Tu te demandes à quoi ça sert, passer tout ce temps. Cet arpège est un piège, on en sort comment? On réfléchit, on assiège, et plus seul qu'avant, et plus seul qu'avant. Tu ratures, tu désespères, cris chuchotement. rien à faire. Cette nuit est un enfer. On en sort comment? Bien plus seul qu'avant. Bien plus seul qu'avant. Cette chanson de pervers, de bons sentiments, ne veut pas se laisser faire. Pour qui tu te prends? Autour de toi y a la guerre, y a la faim et la misère. Tu te ramollis, grand frère, tu t'en sors comment? Bien plus seul qu'avant. Secret pesant, tout ce que l'homme peut faire, tout l'acharnement pour éliminer ses frères, radical et sanguinaire, il a besoin de tout son talent, et plus seul qu'avant. Cette image à la frontière d'une femme en blanc, allongée dans la poussière. Depuis un moment, y a le décalage horaire. J'aurais mieux fait de me taire. C'était pas le moment. Je suis plus seul qu'avant. Je suis plus seul qu'avant.
Solitaire, c'était Bernard Lavillier donc sur France Inter. Nous parlons des énergies renouvelables, des énergies vertes. Avec, on sent bien qu'on est évidemment aujourd'hui dans une zone de turbulence, qu'on verra peut-être pas à la fin du film Les uns les autres, qu'il y a énormément de choses à inventer. Yves Siama, donc dans ce dossier qui est tout à fait intéressant, parce qu'au-delà du titre, on va dire tout à fait marketing, le dossier noir des énergies vertes, il y a aussi quand même derrière des vraies réalités. La réalité, c'est que l'avenir va passer aussi par l'innovation. C'est-à-dire que certes, il y a une partie de choix politiques qui sont importants, hein, et ça on n'y est pas vraiment encore, et puis choix politique, ça veut dire notamment celui de pénaliser ou non les émissions de carbone, et puis aussi tout ce qui va se passer et tout ce qui se passe déjà dans les laboratoires.
Oui, il y a énormément de recherches qui se mènent actuellement sur les énergies renouvelables. C'est presque impossible d'en faire le tour tellement ça fourmille et c'est diversifié.
Non, mais les grandes idées, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Quels sont les trois points qu'il faudrait améliorer, les deux ou trois points?
Eh bien, la première chose, ce sont les rendements. Les rendements sont pour l'instant... alors là encore, ça dépend des domaines, mais les rendements sont souvent faibles, voire très faibles. Il y a souvent un problème de coût aussi. Par exemple, c'est le gros problème du solaire photovoltaïque qui est 5 fois plus cher que l'éolien actuellement, alors que l'éolien arrive péniblement au prix du mix énergétique classique. Et puis, il y a ce problème du stockage qui est vraiment probablement l'enjeu du prochain siècle, c'est-à-dire arriver à mettre une partie de l'électricité produite de façon intermittente de côté pour la récupérer plus tard lorsqu'on en a besoin. Et ça, curieusement, ça fait un siècle que les chercheurs se cassent un peu le nez sur ce problème. La batterie est une solution, mais elle est très lourde, très encombrante, et elle n'a pas encore un rendement fabuleux. Et les autres techniques sont encore expérimentales, sauf le stockage dans les barrages. Mais ça dépend un petit peu de la géographie du pays qu'on considère. Et le nombre de sites n'est pas infini.
Alors Yves, nous avons eu en ligne maintenant Pierre Haddad. On a eu un petit peu de mal à vous avoir. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est tout à fait intéressant d'avoir votre expertise, parce que c'est vraiment votre travail, à la fois sur le réchauffement climatique. Je rappelle que vous avez aussi donc négocié les accords de Kyoto, que vous étiez à Bali, que vous serez à Copenhague, que vous connaissez évidemment tout ceci aujourd'hui. Et on sent bien dans cette émission, une fois de plus, parce qu'on en a fait un certain nombre ensemble, que à la fois on a envie d'avoir du plaisir dans ce monde qui vient, on on sait qu'on est face à de grands points d'interrogation. Et derrière tout ça, eh bien, les énergies renouvelables, évidemment, ont une place à jouer. Alors, quel est votre sentiment que l'on comprenne aussi à travers vos propos de quoi demain sera fait, s'il vous plaît?
Je crois qu'il faut reconnaître avec énormément d'humilité comme point d'entrée qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une vision assurée de l'approvisionnement énergétique de l'humanité. Aucune solution énergétique est à la hauteur des besoins de l'humanité, avec bien sûr des pays qui vont, on le souhaite pour eux, se développer, avec bien évidemment une population humaine qui va augmenter. Et donc le débat n'est surtout pas de dire est-ce que telle ou telle contribution énergétique est dérisoire. On aura besoin de l'ensemble des contributions énergétiques en termes d'énergie classique et d'énergie renouvelable, et puis surtout, on aura besoin de progresser considérablement dans l'efficacité de l'usage que l'on fait de l'énergie. On a aujourd'hui encore des gaspillages absolument considérables qui sont contradictoires avec les exigences de satisfaction des besoins de l'ensemble des peuples de la planète et puis aussi des questions d'environnement et puis, disons-le clairement, de la paix dans le monde. Donc il faut là-dessus s'interdire toute attitude un petit peu méprisante. Ah ben, telle contribution énergétique ou telle énergie renouvelable, c'est quelques pourcents, donc ça vaut pas la peine. Si, ça vaut la peine. Et puis bien sûr, le deuxième point, il faut mettre la flèche du temps dans tout ça.
Oui.
Pour comprendre qu'on a aujourd'hui des choses qui sont matures sur certaines filières, on a d'autres filières qui ont des marges de progression, eh bien c'est petit à petit, dans les décennies qui viennent, que tout ça, petit à petit, va se consolider en jouant bien sûr la complémentarité entre les filières. C'est cette logique de progression dans laquelle il faut se situer.
Alors, lorsque l'on parle d'innovation, là vous avez parlé d'efficacité énergétique, Pierre Adane, bon, faut juste se rappeler que tous les moteurs, on va dire depuis les ascenseurs jusqu'aux automobiles, en passant par le moteur de votre machine à laver ou bien votre grille-pain ou votre robot à broyer les légumes, on a plutôt des rendements assez déplorables. Hein. C'est-à-dire qu'on a vraiment un gap, on a un gain incroyable que sur lequel on peut fonctionner.
Ah oui, le moteur électrique est une belle machine qui fonctionne avec énormément de régularité. Bien mieux d'ailleurs que le moteur à combustion à terme de nos petites automobiles. Mais on a de gros progrès à faire. On est en train d'en faire sur l'éclairage. On fait énormément de progrès sur le chauffage des bâtiments. On fait des progrès sur les procédés industriels. On a une exigence de progrès absolu dans les transports, c'est sur les transports que ça va être le plus dur. Vous voyez qu'on a là des domaines considérables dans lesquels il faut que l'on progresse. Encore une fois, la règle d'or de ce siècle, je dirais la règle morale de ce siècle, ça va être, nous sommes nombreux, tous veulent bien vivre, les ressources sont limitées, l'environnement de la planète doit être protégé, et dans ce cas-là, la conclusion qui en découle, c'est qu'on doit optimiser l'utilisation des ressources. Faire le plus possible de qualité de vie avec des ressources qui sont limitées, et donc d'ajuster au mieux l'usage que l'on fait de l'énergie, et puis chaque grain d'énergie que l'on peut tirer de l'environnement, que l'on peut tirer des énergies renouvelables, eh bien va nous donner de la liberté, parce que un point qui est tout à fait fondamental à reprendre dans la discussion sur les énergies renouvelables, c'est que les énergies renouvelables ne sont pas indexées sur la misère et la colère du monde. C'est-à-dire que le prix des énergies renouvelables n'est pas dépendant d'approvisionnement extérieur qui sont liés, on le voit bien aujourd'hui, à des tensions internationales, à des conflits. L'énergie renouvelable, c'est de l'énergie qui est produite par notre territoire et qui nous donne et indépendance et liberté.
Et donc Pierre, aujourd'hui et pendant quand même un certain nombre d'années, soyons très clairs, parce que ça c'était aussi le thème de ce dossier de Sciences et Vie, c'est de dire, bon écoutez, c'est évidemment des énergies qui sont d'avenir pour l'humanité, c'est incontestable. Mais on va quand même passer par quelques zones qui ne vont pas être très simples. Et d'ailleurs, vous-même, dans cet article, vous nous rappelez que les pays pauvres vont devoir diminuer leur consommation de bois pour avoir un environnement acceptable et qu'on va quand même être obligé de mettre des hydrocarbures dans l'affaire, par exemple.
Ah oui, mais vous voyez que le rendement d'un foyer trois pierres, on parle de la cuisson dans ce cas-là, un trois pierres posé au sol pour faire cuire une marmite ou bouillir du thé, ça a un rendement qui est de l'ordre de 4%.
Donc vous voyez que vous avez 96% de l'énergie qui est contenue dans le bois qui ne contribue pas à ses besoins de cuisson. Alors il y a deux voies, ou transitoirement on remplace là par l'utilisation d'un hydrocarbure, mais avec un rendement meilleur, ou aussi on va vers des foyers améliorés pour que la combustion du bois soit bonne. Ce que cet exemple-là nous dit, c'est qu'à la fois il faut développer les énergies renouvelables, mais même dans les énergies renouvelables, il faut augmenter les rendements et l'efficacité qu'on fait de l'énergie. C'est pas parce que parfois c'est énergies sont abondantes, qu'il faut la gaspiller.
Alors, quelques exemples, peut-être, Maximilien Rouer, on va vous donner la parole ainsi qu'à vous, hein, Yves Siama, mais peut-être des exemples rapides de ce qui fonctionne bien déjà dans ce domaine-là, s'il vous plaît.
Donc, pour aller dans la continuité de Pierre, salut Pierre, sur les rendements, CRS Power, qui est une entreprise anglaise qui a juste 3 ans et qui passe le rendement du gaz pour faire l'électricité et de la chaleur de 30% quand ce sont des centrales concentrées, des grosses centrales, à 80%. Le principe est de faire une pile à combustible dans le bâtiment. Un autre exemple, ça va être Naskeo, qui est une entreprise française qui est spécialisée dans la transformation de la matière organique en biogaz par un processus classique de méthanisation. Et c'est une entreprise qui a pour particularité d'avoir développé des brevets et des technologies qui vont jusqu'à méthaniser la matière solide, ce que très peu d'acteurs sont capables de faire dans la méthanisation. Un troisième exemple, ça va être H3E, qui est une petite entreprise elle aussi française, qui remet au goût du jour la roue à aube de nos ancêtres. Une roue à aube optimisée pour ne pas détruire les poissons, optimisée pour avoir le meilleur rendement possible, mais malheureusement limitée par la réglementation nationale. Quatrième exemple, Evergreen Solar, une entreprise américaine de panneaux solaires photovoltaïques qui s'est fixée comme objectif de faire les panneaux solaires avec le bilan énergie et le bilan carbone le plus faible ou le meilleur au monde et qui semble aujourd'hui, les comparables semblent lui donner raison, même si c'est très difficile de s'en sortir. Et un dernier exemple, puisqu'on a parlé tout à l'heure de stockage d'électricité. Stockage d'électricité, c'est une entreprise française encore, Saft, qui développe des batteries avec un rendement non plus de 40% comme c'est le cas pour les batteries au plomb, mais un rendement plutôt de l'ordre de 60-70% en prenant moins de place à partir de lithium. Voilà.
Alors ça Yves Siama, c'est quand même assez encourageant parce que c'est vrai que dans ce dossier, vous faites une analyse du cycle de vie en recensant matériaux consommés, déchets rejetés, émissions de CO2, donc générés pour la production d'une unité, on va dire, d'énergie en ce qui concerne, on va dire, l'éolien, en ce qui concerne, on sait très bien que les panneaux de silicium aujourd'hui donc consomment beaucoup d'énergie aussi pour leur fabrication, etc. Mais on voit bien qu'il y a quand même plus que des pistes aujourd'hui, Yves Siama.
Non, mais il y a beaucoup de progrès. Je pense qu'une des discussions sur l'objectif que disait Pierre Radan, qui me paraît très juste, qui est d'optimiser au mieux les ressources dont on dispose et les connaissances dont on dispose, c'est qu'il faut aussi discuter de ce qu'on sait faire et de ce qu'on ne sait pas encore faire et sur quoi il vaut mieux injecter de la recherche. Oui. Par exemple, on parlait des biocarburants de première génération. Ces biocarburants sont déjà subventionnés, pas au niveau recherche, au niveau production. C'est-à-dire qu'on donne aux producteurs des subventions pour en faire, alors que tout indique désormais que ce sont des produits qui sont finalement nuisibles et au système énergétique et à l'environnement. Donc, quand il y a quelque chose qu'on ne sait pas encore faire, comme les biocarburants de deuxième génération, il faut mettre l'argent dans la recherche et il faut la développer pour qu'on arrive à le faire. Il y a des choses maintenant qu'on sait faire et qu'il faut encourager sans restriction. Je pense au solaire thermique, par exemple, c'est-à-dire les panneaux solaires qui font de la chaleur, de l'eau chaude. La biomasse, c'est à encourager sans restriction. Le chauffage au bois, à part quelques problèmes atmosphériques, dans les pays comme la France, il n'y a pas de raison de freiner en rien. Mais il y a quand même, par contre, des domaines...
De la liberté aux régions, ce qui ne se fait pas, parce qu'on est dans un pays, on ne veut voir qu'une seule tête du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et lorsque l'on regarde, par exemple, ce qui se passe en Catalogne, eh bien, lorsque vous avez un permis de construire, vous l'avez uniquement si vous pouvez faire effectivement du chauffe-eau thermique dont vous parlez. Voilà, c'est comme ça.
Voilà. Non, mais il faut aussi, donc, pour finir, il faut quand même aussi parfois dire que ça, on n'est pas encore assez bon et ça ne vaut pas le coup. Il faut encore chercher pour améliorer, pour pouvoir mettre sur le marché. Et je pense que, par exemple, dans le cas du solaire photovoltaïque, il y a encore beaucoup de recherches à mener. Et il y a d'autres domaines dans les énergies renouvelables où il faudra pousser beaucoup dans les labos encore.
Alors, petit mot de fin. Maximilien Pierre-Pierre Haddad.
Petit mot de fin, parce que je trouve un peu léger la taxe sur les biocarburants de première génération. Certes, ils ont des limites, mais je rappelle qu'on vit dans un monde où les pays sont en compétition pour produire des champions nationaux. Et que dans le monde industriel concernant l'usage de la biomasse énergétique, il y a malheureusement très très peu d'acteurs au niveau mondial qui sont compétents. Il se trouve qu'en France, on a quelques compétences. Et j'aimerais bien, si vous voulez, j'aimerais bien que ces compétences, plutôt que d'être abattues dans l'œuf, soient soutenues avec pour objectif, à terme, d'aboutir à des biocarburants de seconde, mais même de première génération qui soient durables. Parce que les critères, comme vous le savez, sont en train d'être mis en place au niveau de la communauté européenne. On est en train de réfléchir aujourd'hui à des critères de durabilité pour qu'y compris les premières générations soient durables. Et j'aimerais entendre des discours, je dirais, un peu plus nuancés ou un peu plus encourageants pour des technologies pour lesquelles on a au moins quelques champions nationaux ou quelques poulains avant d'être champions.
Non, mais le champion national, c'est un argument industriel, c'est pas un argument écologique. Hein.
Alors, Pierre Haddad, il est 59.
Oui, alors moi je suis totalement d'accord avec Maximilien. On ne peut pas dire que c'est des filières qui ont des perspectives. Il faut chercher et puis en permanence d'évaluer ce qui existe aujourd'hui. On ne peut pas avancer vers des usages, vers des secteurs qui vont se développer, vers une clientèle qui va apprécier ces énergies renouvelables sans y aller progressivement. Il ne faut pas dire on renvoie tout dans les labos et puis d'ici 5 ans, 10 ans, va nous sortir une machine merveilleuse qui va tout résoudre. Ça n'existe pas dans l'histoire. Ce qui existe, c'est des filières qui petit à petit s'implantent, avancent, progressent avec effectivement des besoins qui sont des besoins au niveau de la recherche.
Un grand merci.
Mais pas trop dévalué quand même.
Merci à vous Pierre Haddad, merci à tous. Le dossier noir des énergies vertes est dans Science et Vie. Réparer la planète, la révolution de l'économie positive, Maximilien Rouer et Anne Gouillon. On se retrouve la semaine prochaine, nous serons en direct du Salon du Livre.